un coup là.
Aïe.
Une forêt.
CO2, mon amour.
Comme ça, t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Où ça?
Dans le Nord. Il faut se décider vite.
Et qu'est-ce que tu comptes en faire de cette forêt?
Du bois à brûler.
Ah.
Quoi? Ah, il n'y a pas que les éoliennes. Le bois, c'est de l'énergie. C'est bio, ça pollue pas. Puis c'est encore abordable. Mais pas pour longtemps. Hein. Ça va grimper, je te le dis.
Denis Chessou.
D'ailleurs, ça grimpe déjà. Hein.
Sur France Inter.
Va te chercher ta brosse à dents.
Ah oui, ça c'est le domaine du bois avec Clovis Cornillac et Gérard Depardieu. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour. Très très nature, vous l'avez compris, avec la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui Tristan Gratalon à la technique et avec Marion Philippe, nous avons préparé cette émission et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Qui commence toujours par une petite humeur. Alors, vous me réchauffez la surface et le bas des reins. Je suis formé par les flocons, l'accumulation d'épaisses couches de neige que la pression avec ses grosses papates a transformé en glace. Je glisse sur mon traîneau vers vos vallées. Bah oui, je suis un glacier. Belle vocation, hein, d'ailleurs, à l'origine. Hein, j'ai choisi ce métier de lenteur, de force, de beauté. Moi, je suis là pour nourrir vos fleuves, je régule le climat, même si dans l'histoire, on a toujours augmenté ou régressé. Mais, je croyais pas que le job était aussi dangereux, dites-donc. Et je ne savais pas que j'avais signé en fait un CDD. Mes copains glaciers des Pyrénées, eux, ils seront aux premières loges vraiment pour s'inscrire à Pôle emploi. Et dommage, ce n'est pas un pôle de glace. Fin 21e siècle, qu'est-ce que je serais, moi, hein? Une photo que vous aurez prise il y a 80 ans? Et puis les mômes qu'on laisse à la planète, eux aussi, qui seront-ils? Alors, je peux même pas accueillir un ours blanc comme réfugié climatique. Il aura trop chaud en se promenant sur mon ventre. Alors moi, la mer de glace, avec mes copains des Bossons et d'Argentières, bah, faut quand même le dire, je suis un peu le boss quand même ici, hein. La gravure de mode des glaciers, c'est moi. J'ai pas pu parler à votre président quand il est venu. Je n'ai qu'une langue de glace avec ma gueule d'effondrement. Comme les sympas des Vosges, comme les bouffés par les scolytes, comme la disparition des insectes, des amphibiens, mais surtout la disparition de votre relation au vivant. Alors, mec à hauteur glacier, great again. Bon, je sais, l'affaire est mondiale. Mais quand même, regardez les camions qui se déversent à mes pieds dans cette vallée du Mont Blanc, qui est à la fois superbe et une des plus polluées de France. Vous trouvez ça logique, vous? Faut ménager, les gars, maintenant, hein. Comme mes copains, les océans, les forêts, les sols. Eh ouais, faut atterrir, les mecs, hein, en se calmant sur l'avion, le cargo, le SUV, la viande, le ciment, le pétrole, les minerais. Oh là, bijou, on se calme. Ouais, mais la machine, elle est partie. Et si t'es bon pour le toujours plus, bah pour la marche arrière, t'as pas encore lu exactement le mode d'emploi. Trop fort, le climat. Alors comment fait-on pour pleurer sur son sort, sur mon sort de glacier, et se réjouir d'avoir vendu des avions, des bateaux de croisière, de signer des taffetas, des CETA, et de laisser les pesticides se poser toujours en plus grand nombre sur mon visage empierré? Mer de glace, mer de cailloux demain. Alors vous pourrez toujours tenter de m'emballer, de saupoudrer vos stations de neige par hélicoptère. Des pans de montagnes dégelés continueront à s'effondrer, à l'image des civilisations qui ne tiennent pas compte de l'environnement. Comme on a formé une amicale, bah, j'en parle à mes collègues de Patagonie, du Groenland, des Alpes, de l'Antarctique, de l'Himalaya, où quand même 40% de la population mondiale dépend de nos eaux. Et bah, c'est pareil, même constat, ça fond. On vous réserve d'abord trop de flotte, de jolies inondations, et puis après, ce sera la rareté. Ah, je vous le dis, moi, être glacier au 21e siècle, là, les jeunes, non, je vous le conseille pas. Ah, mais parlez-moi du petit âge glaciaire. Ah, ça, c'était génial. C'était hier, ça, pour moi. Là, j'étais un caïd. Je faisais peur. Pas loin de Chamounix, avec ma langue, je léchais le village des bois. Je frappais à la porte des maisons en descendant à coups de 2 mètres par jour. Alors on appelait les curés, les évêques, pour que le diable retourne vers les sommets avec sa glace dans son sac à dos. Mais le diable, bah, ça vous réchauffe. Et le diable sur ce coup-là? C'est pas un peu vous et vos dirigeants, ça? Coup de chaud sur la finance, la conso, nos hormones, nos cerveaux, faut aller vite, toujours plus vite. Faites chauffer la colle et déglacez le glacier. Nature, hommes, glaciers, animaux, tous dans la même éprouvette, je mélange. Que va-t-il en sortir? Eh, surprise. Et aujourd'hui, à nos petits, de notre enfance, réécrivons les chansonnettes. Vous savez, c'est bien les comptines. Ainsi fondent les petits et les grands glaciers de la planète. Je vous emmène entre l'Alsace et la Lorraine aujourd'hui, donc pour un reportage très nature dans le Bas-Rhin. On va découvrir Jean Vogel, donc qui est le maire de Salles, combat pour un maire qui profite des atouts écologiques du lieu, des événements aussi pour maintenir son village, dont les décisions sont souvent prises du côté des métropoles. Vous allez voir, ça nous fait le plus grand bien. Je vous souhaite le meilleur aujourd'hui.
On parle de l'altitude, toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre ni rare. On perd notre aptitude, celle qu'on avait, à rester fier, ni l'un ni l'autre ni là. On perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre ni rare. Perdu, perdu, perdu.
Oui, je pense que c'est une histoire d'amour qui est un petit peu mal tournée, donc Angèle, mais bon, allez, elle va se remettre, elle a quand même une victoire de la musique.
Je vous demandais de quitter les lieux.
CO2, mon amour.
Je fais de l'hyper-audition. Écoutez. Vous mettez mes pas dans la neige. Bah, j'entends chaque détail. Comme un monologue avec le vin.
Denis Chessot.
C'est incroyable la qualité de l'air ici. Hein.
Sur France Inter.
Je crois que ce qui me motive, c'est les défis, c'est l'aventure. Des fois, des jeunes, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va foutre dans la ruralité? Ben, on a tout en ville, il n'y a rien, il n'y a pas de culture, rien. Mais le dernier terrain véritablement d'aventure, c'est la ruralité. Il y a un champ, des possibilités, des défis énormes à relever. Je veux dire, si un jeune n'a pas envie de relever des défis, il ne faut pas qu'il soit jeune. Vous savez, j'étais le charlot quand on parlait de développement durable il y a 15 ans. C'était l'écolo de service à côté de ses pompes. C'est une mode, ça lui passera. Dans 5 ans, il aura compris, etc. Et aujourd'hui, je vois des gens qui étaient extrêmement sceptiques, qui finissent par voir ce qui s'est passé. Et donc vraiment, le message, c'est dire, les jeunes, allez-y. Allez-y, réinvestissez la ruralité. Il y a mille et une choses passionnantes à faire dans le développement durable, à lutter contre le changement climatique. Passez à l'action.
Jean Vogel, donc maire qui ne se représente pas, et vous avez bien compris le caractère déjà donc assez opiniâtre du bonhomme. On n'est pas loin de la vallée de la Bruche, on est entre le grès et le granit, donc on est à Salles, avec deux A. C'est la route du sel en fait depuis l'époque gauloise, et c'est une commune en fait du Bas-Rhin qui est posée sur un col des Vosges entre la Lorraine et l'Alsace, donc c'est un passage entre Saint-Dié et Strasbourg. Alors c'est un village qui est pauvre, hein. Si vous voulez, son budget municipal doit à peu près correspondre au budget fleurissement et espace vert d'une commune voisine de 20 000 habitants. Jean Vogel est maire et producteur de petits fruits, de baies de qualité qu'il transforme, et transformer sans dénaturer, c'est vraiment son credo. Bâtir avec la population, donc un rempart au renoncement qui est assez fréquent aux zones rurales. Donc ça, c'est 850 habitants hein, qui veulent vivre, qui veulent attirer de nouveaux habitants. Ils y arrivent, ils ont gardé leur école. Et on est un peu dans la suite de l'émission de l'économiste Éloi Laurent de la semaine dernière. Hein. Fabriquer du bien-être ensemble, c'est la boussole de ce maire sans étiquette qui termine son quatrième et dernier mandat. Nous sommes donc au-dessus du village. Là, vous avez un joli promontoire qui permet de porter le regard sur l'intégralité de la ligne bleue des Vosges, des vallées vosgiennes et alsaciennes. Ça va être de l'air des Vosges aujourd'hui. Car là, je vois donc un petit panneau en bois avec poire, pomme et cerise. Oula ! Ah oui, oui, et l'homme est pas très très loin des arbres fruitiers. Bonjour Jean Vogel.
Bonjour Denis.
Alors, je vous rejoins là parce que vous aimez beaucoup faire ce sentier, qui est un sentier en fait d'observation que vous avez créé. C'est un peu le sentier des fruitiers, c'est ça ?
Tout à fait. Si vous voulez, ça a une situation exceptionnelle, c'est que c'est l'unique agglomération qui se situe au sommet d'un col, d'où un point de vue exceptionnel.
Et là, on est quand même sur une terre qui est assez pauvre, hein. C'est une terre de seigle, de pommes de terre à l'origine. Et donc, une des richesses qui est arrivée d'ailleurs, allez, on va dire encore relativement récemment, mais ça a toujours été la forêt, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un potentiel agricole extrêmement réduit, des sols très pauvres, des températures, on est en montagne plutôt fraîche. Et le seul point positif, c'était l'eau. Et donc, on sait que les résineux ont besoin d'énormément d'eau. Et ils ont trouvé ici ce dont ils avaient besoin.
Vous avez été en tête de liste, si j'ose dire, au moment de la tempête de 99, donc il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça a été un couloir à vent incroyable. Et en même temps, ça a réouvert aussi le paysage. Et je dirais que une de vos fonctions de maire, c'était justement une réappropriation des paysages. Ça, racontez-nous, parce que c'est très intéressant.
Vous savez, le soleil, c'est quand même un élément important pour la qualité de vie, tout le monde le sait. Et ici, il y a eu un phénomène qui est assez rare, qui est même unique en France, mais qui touche tout le massif vosgien, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a arboisé les trois quarts des terres agricoles. Et donc, bien entendu, on a arboisé jusque derrière les maisons. Et un jour, le soleil ne se levait plus à 5 heures du matin, mais il se levait à 11 heures. Et donc on s'est rendu compte que les villages qui étaient complètement encerclés de forêt finissaient par disparaître. Donc quand on a été élu en 1995, on a décidé de mettre en place des projets paysagers pour couper tous ces arbres qui ont été plantés sur terrain agricole autour du bourg. On a été, sans cela, effectivement bien aidé par la tempête de 99. Et donc, plus de 50 à 60 hectares ont ainsi été redonnés à l'agriculture.
Et alors, ça en fait, ça contrariait les mentalités, parce que pour beaucoup de gens, forêt égale richesse, quoi.
Tout à fait. Alors on se dit, mais pourquoi les ouvriers paysans ont planté des arbres sur des terres agricoles? Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, celui qui coupait un hectare de beaux sapins construisait une belle maison, achetait un bel appartement à Strasbourg. Et croyant bien faire, le petit ouvrier paysan qui avait 3 hectares, 50 parcelles, il a tout reboisé en se disant, au moins mes 3 enfants auront leur appartement ou leur maison.
Alors comment on transforme les défauts, je dirais, en atouts?
Chez nous, on a fait un gros travail de consultation avec la population en disant, notre atout en montagne, c'est vraiment la nature, c'est l'environnement, c'est la qualité de vie. Comment on peut essayer de monter des projets autour de tout cela?
Alors, parmi les projets, c'était quoi?
Alors, on a initié donc des projets qui ont touché, comme je viens de le dire, la réouverture des paysages, le développement de l'agriculture, le cadre de vie. Et puis, il fallait rendre tout ça cohérent. Donc, on a embrayé sur des projets d'économie d'énergie, des projets d'énergie renouvelable. Et quand vous avez ce genre de projet sur une commune, vous attirez des gens qui, eux, viennent avec d'autres idées. Et ici, la grande spécificité à Salles et dans un certain nombre de communes de montagne, c'est que l'étranger, c'est pas l'ennemi. C'est une richesse. Et donc ici, quand nous avons des nouveaux habitants ou des résidences secondaires qui arrivent, c'est une richesse. On va les voir, on leur dit quelles sont vos compétences, quelles sont vos idées. Venez rejoindre le monde associatif, venez intégrer le conseil municipal, participer vraiment à la vie et au développement du village.
Alors comment on fait lorsque on a ce combat, on va dire, face à une montée de logique financière, d'injustice des répartitions des finances publiques? Vous résistez bien, quoi.
Alors on essaye d'être toujours malin. Je veux dire, quand vous avez un problème, ben soit vous réussissez à le solutionner, soit vous le contournez. Mais il y a des fois, ça devient des rapports de force. Et on a l'habitude de dire ici que comme on est un des villages les plus éloignés, donc du chef-lieu de Strasbourg, faut avoir l'habitude de crier très très fort si on a envie de se faire entendre.
Et alors, lorsque vous avez en France une solution sur un territoire, paf, après, donc on la généralise sur l'ensemble du pays. Les Allemands, donc, qui sont vos voisins, les Autrichiens, les Suisses, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils adaptent les lois aux réalités du terrain et ça change tout.
Ça, c'était une véritable catastrophe française. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une urgence climatique. Ouais. Mais nos outils institutionnels, notre administration, n'est préparée en tout, sauf à faire face à une situation d'urgence. Tous les Français comprennent qu'un problème en Haute-Savoie ne sera jamais le même problème dans la Creuse, et que dans la Creuse, ça ne sera jamais le même problème en Bretagne. Ce qui fait la richesse de la France, c'est ses territoires. Et nous, au lieu d'adapter nos lois à chaque territoire, on demande au territoire de s'adapter à la loi, ce qui est vraiment à l'origine, je pense, d'énormément de nos problèmes économiques et sociaux. Moi, ce qui me sidère, c'est que chaque fois que je vais à une réunion de maire, quand un ministre dit « Vous avez des savoir-faire, vous connaissez des choses, il faut qu'on avance ensemble »,
oui, c'est là comme ça.
C'est là qu'il y a le plus d'applaudissements, mais il n'y a jamais rien de concret après.
Alors là, on est à la lisière de la forêt, qui va grimper jusqu'à les 800-900 mètres à peu près. Et qu'est-ce qu'elle véhicule quand même, cette forêt, dans l'imaginaire des gens ici?
Alors si vous voulez, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris à Paris, la notion de bien commun. Et donc à Salles, nous avons deux biens communs essentiels, qui sont la forêt et l'eau. Et si vous voulez, il y a la richesse du bois, bien entendu, même si le prix s'est effondré ces dernières années, mais vous avez les fruits sauvages, vous avez les champignons, vous avez cet espace de liberté. C'est pas une forêt privée clôturée dont on vous interdit l'accès. Ouais. Ici, il existe des chemins, les chemins sont balisés, et c'est un bien commun qu'on se transmet de génération en génération, de conseiller municipal à conseiller municipal. Et depuis des décennies, dans chaque conseiller municipal, vous en avez une personne qui gère la forêt et rend ce service à la forêt, parce qu'on a une gestion totalement durable avec 95% de régénération. Et ils savent que le travail qu'ils sont en train de faire là, ben c'est dans 3, 4, 5 générations des arbres qui seront coupés dans 100 ans. Voilà.
Quand vous parlez d'économie circulaire, qu'est-ce que l'on recycle ici?
Alors, les économies circulaires, si vous voulez, par exemple, on a une chaufferie urbaine au bois, automatiquement, ben, vous produisez des cendres, donc les cendres, ben, on les valorise au niveau de l'agriculture. Nous avons des agriculteurs qui produisent du fumier localement, donc voilà, ben, les agriculteurs qui n'en possèdent pas, ben, s'approvisionnent chez ceux qui en produisent. On a quand même beaucoup donc d'artisans de bouche qui font d'excellents produits, et on essaye au maximum, bien entendu, faire en sorte que la demande locale soit au rendez-vous.
Que vous ont enseigné ces 10-11 années que vous avez passées donc au Cameroun avec des producteurs de café, de cacao, de sucre? Est-ce que cette expérience-là, elle vous sert ici?
Absolument. Je l'ai toujours dit que je n'aurais jamais mener à bien tous les projets que j'ai menés si j'avais pas passé ma dizaine d'années en Afrique, aux côtés des paysans africains. Tout d'abord, c'est la notion de gens dans la difficulté. Et c'est là que, quand on est vraiment en difficulté, qu'on trouve les ressources pour vraiment remonter la pente et aller plus loin. Et quelque chose d'important, c'est le mot dialogue. C'est-à-dire, quel que soit le problème, il faut savoir dialoguer. J'aurais pu prendre, en tant que maire, des décisions expéditives, rapides, en disant « c'est comme ça, on y va ». Et sur certains problèmes, on a pris des années pour avancer. L'exemple